I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech où on va vous parler des Pixel Pro, Pixel Watch, Pixel Tablet, tous les Pixels qui sont better together. On a aussi Elon Musk qui change encore d'avis, encore une fois. On a aussi le GP Explorer et plein d'autres choses. Et pour m'aider à commenter cet épisode numéro 481 d'octobre 2022, j'ai l'immense plaisir de recevoir... Alors, normalement, dans l'épisode, il y aura deux sommités du journalisme tech français. Pour le moment, on commence avec la première sommité, c'est-à-dire Lucie Ronfaux. Bonjour Lucie, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va et toi ?
Écoute, je suis un petit peu stressé parce que je stream en live et je fais l'enregistrement et tout sur le Mac. C'est que la deuxième fois que je le fais, mais ça a l'air de marcher. J'ai 12 000 fenêtres qui se chevauchent. Ça a l'air de fonctionner. La tech fonctionne donc ça va.
Ça va, il décolle pas encore.
Non. C'est justement, j'ai pris un MacBook Air pour qu'il n'y ait aucun parasite. Tu vois, la qualité du son avant tout. J'ai un nouveau micro Shure dans le studio à Paris et tout. J'ai le petit qui est en balade avec sa tante. Donc, on devrait pouvoir faire une émission correcte, j'espère. Donc, on a Lucie qui abandonne un tout petit instant sa formidable newsletter pour passer un moment avec nous à commenter la tech. Merci à toi. Et on a Cédric, un grand, qui devrait nous rejoindre. Il a été coincé dans un tournage qui a duré plus longtemps que prévu. Donc, peut-être qu'il débarquera tout à coup au milieu de l'émission. Et ça sera, bien sûr, un grand plaisir pour nous. Mais en attendant, je voudrais remercier les gens qui ont débarqué dans le Patreon, les Patriotes, les nouveaux Patriotes qui ont débarqué depuis la semaine dernière. Il y a Christophe Roux, Jean-François, Loïc Vernet, Mathieu Négri. Merci à vous tous d'avoir rejoint la formidable famille des Patriotes et les producteurs de cet épisode, Raph et Olivier Maury. Alors à chaque fois que je dis ça, je précise que c'est les producteurs de cet épisode. J'espère qu'ils aiment les pixels. Et Elon Musk, il fait son retour lui. Je vous avoue que moi je suis un peu... Mais il y a des choses à dire parce qu'il a encore changé d'avis Musk à propos de Twitter. Lucie m'a assuré qu'elle avait des choses intelligentes et intéressantes à dire sur le sujet. Donc je te fais confiance. Je déforme peut-être.
Il y a des choses à dire. J'ai pas mis de qualificatif.
Faut avouer qu'au bout d'un moment, ça un petit peu. Mais on va en parler. Et puis oui, je crois qu'il y a des choses à dire quand même. Mais on commence du coup, encore une fois, sans les jingles, parce que là, sur le Mac, j'ai pas encore. Alors, j'ai 12 trucs qui tournent en même temps et un seul écran, donc pas encore les jingles. Ah oui, et je suis encore un peu malade, donc si je tousse, c'est normal, vous serez prévenus. On commence avec les Google. Ça commence bien.
Ça va ?
Moyen. Comme tu l'entends. J'ai peut-être été un petit peu ambitieux de faire une émission. Non, ça va bien se passer. Google Pixel 7, 7 Pro, Pixel Watch, ils ont même parlé d'une tablette qui arrive en 2023 avec ce slogan qui devrait vous rappeler un petit peu quelque chose. Ce qu'ils disaient, c'était « Better Together », donc qui fonctionne mieux ensemble. Et de fait, c'est pas la première fois que Google annonce des téléphones. Hein, c'est même la 7e fois qu'ils font leur Pixel et il y en a eu d'autres avant. Mais c'est la première fois qu'ils mettent autant en avant leur écosystème, ce qui peut se comprendre parce que c'est la première fois aussi qu'ils annoncent et qu'ils sortent une montre. Donc, il y a quelques trucs à dire là-dessus. Sur les téléphones eux-mêmes, franchement, c'est pas les téléphones les plus incroyables. On est un petit peu comme sur les iPhones et comme sur tous les téléphones. Ils ont beaucoup mis l'accent sur les caméras. sur les appareils photos avec, on va dire, l'intention de montrer à quel point on était très proche des appareils DSLR, que ça faisait vraiment une qualité de photo grâce à le processeur Tensor G2, qui est leur processeur, qu'on a des photos qui font des super zooms dans des zooms, que vous n'avez même pas besoin de zoom optique parce qu'il zoome tellement bien qu'il peut zoomer dans un zoom qui est dans un zoom. Bon, ok, on connaît la rengaine, tout le monde le dit, généralement c'est plutôt convaincant, mais au-delà de ça, je dois avouer que je suis un petit peu, pas embêté, mais enfin, il y a d'une part le fait qu'il n'y ait rien d'incroyable qu'ils aient annoncé, et puis d'autre part le fait que je trouve qu'ils sont moins bons en marketing qu'Apple, donc ils nous disent moins ce qu'il faut mettre en avant de leur téléphone, tu vois, Lucie. Donc en tant que journaliste, si la boîte que je couvre ne me dit pas ce dont je dois parler, moi je suis perdu, je ne sais pas faire mon métier. Donc,
moi je préfère qu'une entreprise ne me dise pas quoi dire.
J'étais à peine ironique dans mon commentaire.
T'as tendu la perche, là.
Mais oui, le truc, c'est que il faut être honnête, les téléphones sont des téléphones itératifs et ils n'ont pas vraiment de grosses fonctionnalités qui puissent être mis en avant pour des quidam qui cherchent à savoir est-ce que c'est un bon téléphone. Bah oui, la réponse est oui, c'est des super bons téléphones, les téléphones Pixel. Ils ont, alors je peux vous donner la liste des vous endormir avec la liste des caractéristiques techniques, hein. Le 7 a un écran 6,3 pouces, le 7 Pro un écran 6,7 pouces, les deux ont un processeur Tensor G2, le nouveau processeur de Google. La caméra, c'est 50 mégapixels et 12 mégapixels pour les deux caméras à l'arrière pour le Pixel 7. Il y en a des encore mieux pour le Pixel 7 Pro. Je crois qu'il y en a 3, si je ne me trompe pas. Un écran 120 Hz LTPO sur le Pro, donc qui peut ralentir la fréquence d'affichage et rester allumé tout le temps, comme d'ailleurs ils ont fait remarquer, nous on fait ça depuis un moment, alors qu'Apple vient d'annoncer cette fonctionnalité. Bon, voilà, c'est des bons téléphones, ils coûtent 600-700 € et 900-1000 €, quelque chose comme ça. C'est des super téléphones. C'est généralement, moi, ce que je recommande si vous êtes, si vous allez du côté de Android, eh ben Google ou Samsung, c'est plutôt les téléphones qu'on recommande, ils sont solides, ils sont bons. Et je crois que les commentaires, à moins de vouloir se lancer spécialement dans les commentaires sur Android et sur Google, s'arrêtent un petit peu là, parce que une chose beaucoup plus intéressante à discuter, c'est la Watch, la Pixel Watch, qui est donc la première montre de Google qui a été annoncée. C'est une montre qui fait, bah, on va pas se mentir, hein. Ils ont vu du côté d'Apple comme ils réussissaient à développer un écosystème qui fonctionne et qui plaît aux utilisateurs. Eh ben, c'est un petit peu une montre qui reprend pas mal de concepts de l'Apple Watch. Au niveau design, elle est quand même plus belle, je trouve. Elle est ronde. Donc ça, c'est déjà un choix de design qui me convient mieux. Elle a un gros cadre, un gros bord, mais bon, ça, c'est pas la fin du monde, hein. On le remarque, mais c'est pas complètement dramatique. Et elle met l'accent sur beaucoup de santé et d'exercice avec une intégration des services Fitbit, notamment, ce qui est pas surprenant puisque Google a racheté Fitbit, hein, vous vous en souvenez. Donc voilà, c'est un petit peu la réponse officielle de Google à Apple avec cette Apple Watch, enfin avec cette Pixel Watch, la réponse à l'Apple Watch. Et au-delà de ça, comme je le disais, ils ont mis en avant leur écosystème, ce qui est la grande force d'Apple ces dernières années. Ils ont réussi à transformer le produit phare, l'iPhone, en un écosystème autour de tous leurs produits. Et on sent que c'est un petit peu la direction que veut prendre Google au niveau du matériel, puisqu'ils ont déjà une tonne de services de toute façon. Est-ce qu'elle t'a plu ? Elle t'a convaincu, cette Pixel Watch, Lucie ? Elle t'inspire quelque chose ?
Et moi, ce que je vois là des images que tu es en train de montrer à l'écran, ce que je remarque, c'est qu'elle a pas l'air trop grosse sur des poignées de femmes, ou en tout cas de personnes que j'identifie comme des femmes, peut-être à tort. Et je me rappelle, c'était un gros sujet sur le moi, par exemple, l'Apple Watch, je Bon, déjà, le monde connectique, ça ne m'intéresse pas trop. Mais je ne peux pas vraiment en porter parce qu'elles sont trop grosses. J'ai des poignets assez fins parce que je suis assez petite. Toutes les femmes ne sont pas petites, mais il y a des femmes qui sont petites. Et du coup, je trouve ça sympa qu'au moins, en termes de design, on soit sur un design assez qui a l'air assez léger, en tout cas. Alors après, c'est vraiment un avis à l'emporte-pièce en voyant trois photos. Hein, mais c'est ça que ça m'évoque, en tout cas.
C'est vrai qu'elle est... Franchement, au niveau du design, moi, je la trouve plus réussie que cette Apple Watch.
Elle est jolie. Hein.
Reste, ouais. Elle est jolie, elle ressemble à une montre, quoi. Elle ressemble pas à une sorte de mini iPhone qui est posée sur votre poignet. Alors, l'Apple Watch, on s'y est faite, mais elle est plutôt jolie. Et puis, elle reprend aussi les éléments de design comme la couronne numérique, vous savez, qu'on peut tourner et appuyer. Donc, ça, c'est un truc qu'elle reprend de l'Apple Watch aussi. Et c'est une... Bon, voilà. Au-delà de ça, je pense que c'est un truc qu'on peut mettre en avant pour Google. Ils ont un truc qui peut maintenant être identifié comme un écosystème avec une montre et un téléphone et d'autres choses. Donc, vraiment, moi, c'est ça qui me marque. C'est cette, comme je le disais, le fait qu'ils aient poussé l'écosystème autant. Et du coup, jusqu'à maintenant, si on voulait un ensemble d'appareils, c'est-à-dire le téléphone, la montre, les buds, donc les écouteurs que Google a aussi, et tout ça, eh ben, on pouvait aller chez Apple ou chez Samsung, parce que Samsung est très fort sur l'écosystème aussi. Aujourd'hui, avec, c'est tout bête, hein, mais cette montre complète l'offre. Et accessoirement, l'autre truc à noter, c'est comme je le disais, il y a aussi la Pixel tablette qui sortira en 2023, la nouvelle, et qui montre que ils sont vraiment en train de penser à l'écosystème dans son ensemble pour avoir tous les appareils. Alors, la tablette, ils en ont montré un petit peu. Hein, c'est y a un truc qui peut être malin ou pénible selon vos utilisations, mais elle a une sorte de dock qui fait aussi haut-parleur. Donc, vous la posez sur le dock, elle se pose dessus et elle devient comme une sorte de... Vous savez, ces assistants virtuels comme les enceintes connectées qui ont aussi un écran. Il y a plusieurs marques qui font des choses comme ça, les Nest, les trucs de Meta, etc., de Facebook. Elle peut faire, en fait, elle fait les deux. Donc, elle se pose avec un dock aimanté et vous pouvez la prendre. Donc, vous pouvez la poser ou la prendre et l'utiliser comme ça, c'est pas bête. Elle est un petit peu allongée, beaucoup plus rectangulaire qu'un iPad. Ça peut être pratique pour les vidéos, un peu moins pour la productivité, mais voilà. Et elle sera disponible en 2023, ce qui viendra compléter vraiment l'offre service de Google. Je crois que c'est à peu près tout. Je ne sais pas si vous voulez les caractéristiques techniques de la montre, mais elles ne sont pas ultra intéressantes. 41 mm pour l'écran, 41 pour le boîtier. Et elle coûte environ, j'imagine que c'est 400 € en France, $350 aux États-Unis, et on peut déjà précommander. Et les impressions donc des journalistes, c'est vraiment c'est un petit peu une Apple Watch ronde, quoi. Et elle est bien sûr sous Wear OS. Et les journalistes sont plutôt très convaincus par ce produit de Google. Je veux mentionner aussi rapidement les annonces de Xiaomi, qui a annoncé donc deux nouveaux téléphones, le 12T et le 12T Pro, avec des caméras, des appareils photo à 108 mégapixels et 200 mégapixels. Je crois que c'est l'exemple type de le nombre de pixels ne fait pas forcément de meilleures photos, parce que les pixels sont plus petits, il y a moins de lumière, donc la qualité ne suit pas forcément. Disponible normalement cette semaine. Je suis toujours un petit peu embêté avec ces annonces d'autres appareils Android parce que c'est à la fois un petit peu marketing et puis à la fois il y en a tellement. Il fut une époque où je vous aurais parlé de ces grosses annonces de gros téléphones Android. Aujourd'hui, je le mentionne un petit peu par obligation presque. Je ne sais pas si tu comprends ce que je ressens, Lucie, mais les iPhones, on a des trucs à dire. Samsung et Android et Google, ok, mais tout ce qui est OnePlus, Xiaomi, tout ça, c'est juste des téléphones en plus et il n'y a pas grand-chose à commenter dessus, je trouve. Je ne sais pas si toi, tu seras plus locale.
Encore une fois, moi, je ne fais pas de matériel depuis très longtemps, donc je n'ai pas grand-chose à dire sur ces marques-là. Après, moi, mon référent tech Android, c'est mon confrère et mon ami Geoffroy Husson, qui travaille chez Frandroid. Je ne sais pas si tu le connais.
Bien sûr, il a été dans l'émission.
Voilà, et donc je suis sûre que Geoffroy, par exemple, aurait sans doute des choses à dire sur Xiaomi.
Je me demande si, parce que quand c'est pas juste parce que j'utilise des téléphones Apple, mais quand Apple annonce un téléphone, j'ai des choses à dire. Quand Google, okay, mais quand c'est à ce stade, hein, parce qu'il y a quelques années c'était différent, mais à ce stade, quand c'est un téléphone Xiaomi par exemple, au-delà de dire il y a 200 mégapixels sur l'appareil photo du pro, et encore, même ça, honnêtement, c'est pas super intéressant. J'ai pas grand-chose à dire. Peut-être que Cédric, qui nous rejoint, aura plein de... on parlait de la différence. Salut Cédric.
Cédric, un salut. Grand
Marie, de la différence
tout ça arrange.
D'impression entre les annonces d'Apple et des autres constructeurs. Est-ce que c'est que du marketing qu'on ait des choses à dire sur les trucs d'Apple? Parce que sur Xiaomi, par exemple, on vient de parler de Google et des Pixels, mais sur Xiaomi, franchement, voilà, ils ont annoncé deux téléphones. OK.
Ouais, voilà. C'est ça. Et parce qu'on est aussi, mais ça concerne aussi Apple, peut-être dans une moindre mesure, même pas sûr, mais on est quand même dans des innovations de plus en plus incrémentales. On voit bien de toute façon que les gens, d'ailleurs, de manière générale, alors peut-être que c'est juste les gens autour de moi, ont tendance à, par exemple, changer de téléphone un peu moins souvent, en tout cas être moins motivés par la nouvelle version. Tu vas dire, bon, oui, peut-être que je peux attendre la suivante. Surtout avec ces constructeurs qui se sont imprimés dans une espèce de rythme de mise à jour forcée annuelle, voire pluriannuelle, et où on ne trouve pas forcément son compte. Tu vois, la version 11 par rapport à la 10, la 12 par rapport à la 11, bon. Donc, il y a peut-être des gens qui vont devenir des gens de version paire et des gens de version impaire, par exemple, voire un peu plus. Comme à un moment, on est quand même encouragé à garder nos appareils un peu plus longtemps. Je t'avoue que je le regarde, du coup, je vérifie. Le smartphone que j'ai dans la poche, c'est un iPhone 12 Pro Max, donc très bien, il fonctionne encore tout bien, il a 2 ans. Bon, j'ai eu envie au moment de l'annonce du 14 en disant hey, est-ce que do I pull the trigger, tu vois, et j'ai pas encore trouvé la motive. Il y a des choses dedans qui m'intéressent clairement, mais est-ce que c'est, tu vois, est-ce que j'irai faire la queue dans le froid le matin devant l'Apple Store à Opéra? Non, voilà, ça se fera naturellement.
C'est marrant parce que dans la chatroom, on nous dit s'il n'y a pas de nouveaux usages, il n'y a pas d'infos. Et c'est là que Apple est très fort, parce qu'ils nous mettent en avant les nouveaux usages, même de manière un petit peu artificielle, mais il y a des trucs à dire. Détection d'accidents de voiture, t'en parles. Et c'est marrant parce que Google a rappelé lors de sa conférence qu'il le faisait déjà. J'avais oublié. Donc, il y a une partie, clairement, usage, mais il y a aussi une partie manière de mettre en scène et de mettre en avant. Et pour ça, il faut avouer que Apple est très fort.
Bon. Après, mais souvent, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour les journalistes tech, mais moi je trouve ça plutôt positif qu'on soit moins incité à changer de smartphone régulièrement. Enfin, j'ai un Pixel 5 pour le coup, donc j'ai acheté il y a 2 ans, et mon smartphone précédent, je l'avais acheté 5 ans avant. Donc moi, tu vois, je suis ni père ni impair. Moi, je change mon téléphone tous les 5 ans à peu près, et au final, j'en ai un usage tout à fait correct. Hein.
Il y a plein de gens qui font ça, et moi, j'étais comme Cédric cette année. J'ai vraiment, d'ailleurs, j'en parlais dans l'émission. Ça me démangeait, quoi. T'as l'annonce, t'as la fête, tout le monde est content. Oh, regarde, IT Tech, les accidents de voiture. D'ailleurs, j'étais sur des manèges il y a quelques jours. Si j'avais eu un nouveau téléphone, peut-être qu'il aurait appelé les. Je sais pas si vous avez vu cette. Ah t'as pas vu cette histoire?
Ah non.
Les iPhone 14 Pro, enfin les iPhone 14 qui ont la détection d'accident, ils se déclenchent dans les montagnes russes. Bref, c'est anecdotique. Mais j'ai été tenté au début, et puis, enfin la police, ils appellent les services d'urgence parce qu'ils pensent que t'as été dans un accident quand t'es sur un gros manège. Mais j'ai été tenté, mais une fois la semaine passée, je suis très bien avec mon 12 Pro, quoi. Bon, l'année prochaine, peut-être que 3 ans pour quelqu'un comme moi, ça ira, mais on verra. Bref, donc voilà cette petite partie philosophie des annonces tech. L'autre... J'avais déjà oublié le deuxième sujet. Alors, le meilleur ami de Cédric, a encore changé d'avis. Elon Musk a finalement décidé qu'il allait...
Ah, ça va encore être de ma faute.
Cédric, ça suffit maintenant. Hein. Tu pourrais un petit peu le canaliser, ton pote, là. Cédric aime beaucoup ça, Tesla. C'est pour ça que je...
Bon. Ouais, mais ça fait de moi, évidemment, l'avocat, l'apologiste, le turiféraire d'Elon Musk à tous exactement. Les coups pour tout ce qu'il dit tout le temps. Voilà. Ça, c'est voilà, bon. Voilà la base de la discussion pour ceux qui n'ont pas suivi jusque-là.
Vous savez que Elon Musk, après avoir décidé d'acheter Twitter il y a quelques mois, avait changé d'avis, ou en tout cas semblait avoir changé d'avis, et avait lancé un procès contre Twitter pour tromperie, on va dire comme ça. Et il était très clair qu'il ne voulait plus racheter Twitter, qu'il avait décidé de racheter pour 44 milliards d'euros. Bien sûr, tout ne vient pas de sa poche, mais c'était l'offre qu'il avait fait. Après tous les drames dont on vous a abreuvé pendant des semaines et des mois, le procès avait vraiment signalé que maintenant c'était terminé, il ne voulait plus du tout racheter Twitter. Et bien la semaine dernière, changement de discours, Elon Musk finalement se met d'accord avec le board, envoie une lettre en disant « Bon, bah finalement, je veux bien l'acheter au prix annoncé, enfin que j'avais déclaré il y a quelques mois de ça. Donc, on est reparti, on relance les négociations et le rachat va se faire. » À noter que cette annonce est arrivée combien de temps ? Un jour avant la date à laquelle il était censé témoigner et comparaître donc pour le procès. Est-ce que c'est lié ? J'en sais rien, mais je
pense. Bah oui. Évidemment, c'est lié. Parce qu'en fait, il y a déjà des choses qui étaient sorties dans les documents que se sont échangés les deux camps et qu'ils ont réquisitionnés, j'ai envie de dire. Il y avait des choses assez bénignes pour l'essentiel. Il y avait des échanges de textes et de mails avec certains de ses amis, de ses contacts, de voilà, tout ça. Bon, c'était pas, mais là, évidemment, là, tout à coup, se retrouver, tu vois, sous serment, sous le feu de questions qui sont en plus souvent assez périphériques à l'histoire de son rachat de Twitter, c'est pas forcément une position très agréable. Donc je pense qu'il a jugé que finalement, bon an mal an, c'était peut-être bien de s'en sortir par le haut, parce qu'en plus,
44
je pense que
milliards pour pas témoigner, ça fait, il doit avoir des trucs. Enfin si c'est
oui,
ça.
Mais c'est pas 44 milliards, c'est la différence entre 44 milliards et ce que l'issue du procès lui aurait coûté. Mmh. Et ouais. Ça c'était peut-être déjà 44 milliards. Le pari c'était ça, c'était de dire est-ce que le procès allait est-ce que l'issue du procès c'était de dire bon vous étiez convenu d'un milliard de dédommagement si ça se faisait pas et ben voilà ça vous coûte un milliard, ça je pense qu'il l'aurait payé genre ok super on passe à la suite, ou alors c'est 44 ou alors c'est quelque chose entre les deux, mais il faut revenir à la table des négociations, c'est un petit peu compliqué, mais je pense qu'il a jugé et je pense que ses avocats ont dû lui dire hey boss, ça va pas le faire, on va pas y arriver là. On a un dossier un peu fin, il y a un ou deux trucs qu'on peut essayer d'arguer, mais je pense pas que la juge va... Voilà, je pense
pas qu'on va gagner à nos arguments. On a déjà changé d'argument quatre fois le mois qui a précédé. D'abord, c'est pour cette raison.
En plus, vous ne gardez pas le silence qu'on attend d'une personne dans votre position. C'est-à-dire que vous avez quand même tendance à dire n'importe quoi sur plein de trucs. Donc, enfin, en gros, vous êtes un peu difficile à défendre en plus. Donc, voilà, le mieux, ce serait d'en finir maintenant.
Ouais.
Si je peux me rajouter à la conversation, bon, je rejoins le sentiment général. Moi, j'en ai marre de cette histoire. Je la trouve non seulement inintéressante, mais même, je trouve ça... un peu grave en fait hein, que cet homme ait monopolise autant l'attention médiatique. Moi ce que j'ai trouvé assez fascinant dans la révélation des documents dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'en fait quand on regarde les SMS que se sont échangés Musk et ses soutiens, ses avocats, etc., c'est qu'en fait Musk il a pas l'air d'avoir une vision très très claire de un, comment marche Twitter, et deux, ce qu'il souhaite faire de Twitter. Il y a l'air d'avoir un flou complet, et du coup, on en vient à se dire, et je suis pas la seule à le penser, hein, y a pas mal d'analystes qui me rejoignent là-dessus, en fait, c'est purement un truc d'ego. C'est Elon Musk a voulu racheter Twitter, pourquoi ? C'est un peu un mystère. Est-ce que c'est parce que c'est une plateforme qui le fascine. Est-ce que c'est pas pour le pouvoir culturel de Twitter? Est-ce que c'était pour faire chier quelqu'un? Enfin, franchement, c'est un peu flou. Et moi, j'ai lu un article la semaine dernière que j'ai trouvé très intéressant dans le New York Times qui parlait de ce qui était qualifié du retour de la bro-culture dans la Silicon Valley. Mmh. Donc la bro-culture, la culture du bro hein, en français, c'est-à-dire un peu la valorisation de formes d'hyper-masculinité. Et c'est vrai, quand on s'y intéresse, ces derniers temps, il y a pas mal de signes dans ce sens. Par exemple, je sais pas si t'en as déjà parlé dans le podcast, Patrick, mais Mark Zuckerberg, ces derniers temps, on n'arrête pas de parler de sa passion pour les arts martiaux. Je sais pas si t'as remarqué ça.
J'ai pas noté ça.
Il adore le jujitsu, il adore le catch, il fait du MMA, il va dire que les gens qui regardent la télé, c'est des bêtas. Enfin bon, donc vraiment un vocabulaire qui est très marqué.
Il a employé le terme bêta?
Ah ouais, il a employé le terme bêta, ouais. Je t'enverrai l'article. Donc pour le coup, c'est quand même très marqué.
Je vais expliquer pour ceux qui savent pas, le bêta et alpha, c'est un petit peu les alphas, c'est les dominants, et bêta, c'est ceux qui suivent dans le vocabulaire, bah justement des bros. Enfin, c'est même plus que les bros là. C'est carrément.
C'est de la culture. Enfin, c'est vraiment
un vocabulaire de masculinisme. Forum, voilà, c'est ça, ouais.
De masculiniste, ouais. Et du coup, moi, je pense, et l'article du New York Times le disait aussi, qu'on peut ranger Elon Musk dans cette catégorie un peu floue de, en fait, on est dans une baston, quoi. On est dans une baston d'ego, on est dans un affrontement. Il utilise Twitter pour dire, mais n'importe quoi. Après, il a le droit, hein, mais dire, il a fait des tweets vraiment en avant sur la guerre en Ukraine, là, il y a quelques jours, en disant que, en gros, enfin, en comparant la guerre à la Constitution. Enfin, bon, franchement, ça n'a ni queue ni tête.
Il a repris la propagande russe à peu de choses près. Ouais. Il a d'ailleurs été repris par la télévision nationale russe. Enfin bon, bref, c'est...
Ça n'a ni queue ni tête. Et par ailleurs, ça ne va servir personne. Enfin, déjà, même pas sans doute lui, parce que dans l'histoire, il va perdre de la thune et il va quand même... Enfin, sa réputation en tant qu'entrepreneur va, je suppose, quand même en prendre un coup, parce qu'on... Comme tu le disais, Cédric, c'est quand même assez embarrassant pour lui, tout ce qui est en train de se passer au final. Et nous, utilisateurs, utilisatrices de Twitter et internautes en général, qu'est-ce qu'on gagne dans ce débat ? Absolument rien. Donc,
pour l'instant,
c'est ça qui me préoccupe le plus en fait dans toute cette histoire, parce que on ne peut pas parler de Twitter sans prendre des considérations politiques. Mais Musk, ces dernières années, on l'avait évoqué d'ailleurs au début de cette histoire, s'est largement rapproché des milieux de la droite américaine, qui est particulièrement inquiétante. Il n'est pas super pro-Trump, mais enfin, il est beaucoup plus dans ce camp que au niveau du ne serait-ce que du centre. Et ses amis, que ce soit Kanye West qui a fait des tweets et des posts sur Instagram antisémites, et du coup dont les deux comptes ont été supprimés, c'est le pote de Elon Musk, enfin c'est le pote. Du coup, tout à coup, avec ce genre de déclaration et le fait que leur compte soit supprimé, ils se donnent des petits coups de coude, genre « toi aussi, ouais, moi aussi, on est potes, super ». Et du coup, qu'est-ce que va faire Elon Musk de Twitter ? Pour vous donner un exemple des tendances politiques dont il semble proche, on avait évoqué cette nouvelle loi texane sur les réseaux sociaux qui leur imposerait de ne rien censurer, de ne rien pouvoir censurer au nom d'une supposée liberté d'expression extrême dont on parle depuis quelque temps, parce que la droite américaine se sent justement censurée par les réseaux sociaux, et du coup cette loi imposerait de ne rien pouvoir censurer aux réseaux sociaux, et donc les tweets ou les posts Instagram antisémites de Kanye West, ils n'auraient pas pu les censurer. Selon cette loi, la raison pour laquelle j'en parle, c'est pas juste parce qu'on parle du Texas spécifiquement, mais c'est le genre de mouvance politique dont Elon Musk est proche. Donc Elon Musk à la tête de Twitter. Moi, je vous avoue que quand il y avait eu l'histoire du procès, j'avais quand même soufflé un petit souffle de soulagement, parce que je me disais on n'aura pas besoin de savoir à quelle sauce on va être mangé par Musk et sa gestion de Twitter. Là, il est possible que ça revienne. Alors, qu'est-ce qui est du théâtre sur Twitter ? Qu'est-ce qu'il pense vraiment ? Qu'est-ce qu'il va vraiment faire ? On n'en sait rien. Mais en jugeant par rapport à ce qu'on peut voir, moi, je pense qu'il y a quand même de quoi s'inquiéter un petit peu, quoi.
En fait, le problème, c'est que ce qu'on attendait pour le futur de Twitter, c'est d'abord que Twitter ait un patron. Parce qu'en fait, jusque-là, Jack Dorsey, pendant quoi, 8 ans, était à la tête de Twitter. Mais enfin, faut pas non plus oublier qu'à côté de ça, il était à la tête de
Square.
Square. Là, j'ai toujours envie de dire Stripe. Non, Square. Square qui représente 90% de sa fortune. Hein, c'est pas... Voilà. Donc, c'est quand même difficile de dire d'en mettre le patron. Mais enfin, est-ce que Twitter vaut un patron à plein temps? J'ai envie de dire oui. Et là, en fait, l'arrivée d'un Elon Musk, ou alors je pense qu'il va recruter quelqu'un, en fait. Ça va pas être lui le CEO. Lui, il va être président du board ou un truc comme ça. Parce que Twitter a quand même besoin d'un CEO à plein temps. Et on sait que ça peut pas être Elon Musk. Parce que c'est pas comme s'il avait pas d'autres attributions un peu plus, enfin, voilà, des trucs qui vous prennent un peu de temps. Mais après, moi, je suis toujours très méfiant quand on dit oui, mais qu'est-ce qu'il va faire de Twitter? D'abord, le truc sur on va rien censurer jamais nulle part, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas.
Mais il n'empêche que si c'est la loi, ça pose un problème. Si c'est la loi Texas.
Oui, mais c'est une loi qui ne concernera que le Texas.
Ah bah peut-être. Mais avec un Elon Musk, ça va plus loin que juste ça. Avec Elon Musk qui dirige Twitter, il n'est pas impossible que ça ait une influence. Et c'est pour ça que tout le monde s'écharpe sur Twitter. Ça a une influence politique. Après, Trump a été élu sur Facebook et Twitter. Peut-être que je grossis le trait, mais en tout cas, ça a été un facteur important. On arrive aux élections de 2024, donc c'est pas juste. Oh bah Trump, il va pas avoir
Trump, il a été élu sur CBS et sur CNN. Il a pas été élu sur Twitter.
Je suis pas d'accord.
Je te promets que si Trump avait pas fait The Apprentice, il aurait jamais été.
Non non, mais bien sûr. Mais après,
l'image qu'en ont les gens,
Twitter
c'était la
et
télé.
Facebook et le ciblage. Sur ces.
Ça sur la
sur
pub, oui.
Réseaux,
tout à fait.
Voilà, c'est ça. Pardon, Lucie, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, juste sur Trump, je pense effectivement que c'est plus nuancé que de dire que c'est grâce ou à cause de Twitter qu'il a été élu. Néanmoins, ce qu'on peut remarquer, c'est que bannir Donald Trump de Twitter lui a retiré quasiment tout pouvoir de nuisance.
Ah oui, totalement.
On n'entend plus parler. Et y compris sur Fox News, sur tous ces... Enfin, il a vraiment, médiatiquement, il a quasiment disparu. Oui. Parce que Twitter faisait office pour lui d'un porte-voix assez inimaginable, quoi.
C'est ça. Et le fait
surtout il monopolisait
Trump,
la conversation
pas,
en fait.
Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que Trump, ok, mais imaginons même que Trump ne soit plus d'actualité, bah il y a quand même ce qui revient au centre de la question, c'est le pouvoir de Twitter, le pouvoir de communication de Twitter. Et Musk à ce stade, moi, je ne serais pas super à l'aise de me dire c'est lui qui va décider comment fonctionne cette immense porte-voix, quoi.
Bon, après, il faut signaler quand même que nos lois en France et en Europe sont quand même très différentes de celles aux États-Unis.
Ouais.
Et qu'en termes de modération, alors les plateformes traînent du pied, évidemment, mais elles doivent quand même se soumettre à des règles qui sont très différentes. Et typiquement, un tweet comme celui de Kanye West, en France, c'est absolument illégal. Ouais, d'ailleurs, dans plein de pays, c'est absolument illégal. Et ça aurait dû être retiré. Donc, je pense qu'il faut s'intéresser à la modération à l'américaine parce que, de fait, ça a une influence sur ne serait-ce que la culture d'une plateforme. Mais il faut quand même mettre de la nuance dans le sens où on a quand même un modèle européen. Alors qui a ses défauts, mais qui nous protège quand même un minimum de ce genre de choses, quoi.
Je crois que la situation de Twitter et des réseaux sociaux en général, à vrai dire, ne m'inquiète pas tant en Europe. Même avec Musk à la tête, je suis d'accord et tu fais bien de le signaler. C'est pas en Europe que ça va nous changer nos modes de fonctionnement des réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la manière dont ça va influencer le paysage politique et l'avenir des États-Unis directement, parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir les répercussions médiatiques en Europe pour que ça influence le monde quand les États-Unis, qui sont déjà dans une situation politique compliquée, basculent encore plus loin dans cette folie binaire dans laquelle ils sont, quoi, cette opposition ridicule et extrême. Et si Twitter n'influence que les États-Unis, c'est largement suffisant pour, par rebond, nous influencer aussi, quoi. Bref.
Bon. Moi je prends quand même un pari.
D'accord. C'est allons-y. Que... Ça y est. Voilà. Là, ça devient intéressant. Les paris de Cédric.
Si Elon Musk finit par racheter Twitter, ce qui n'est pas encore totalement acté, hein. Enfin, je.
Non. Bon, tout est arrivé.
Il y a encore des questions sur le financement, il y a sur le fait qu'il change encore. Enfin, il y a plein de questions, on est d'accord.
Mais même s'il le fait, je prends le pari ici. je suis totalement prêt à être démenti par l'avenir, qu'il ne rouvrira pas le compte de Donald Trump.
Tu crois ? D'accord, intéressant.
J'en suis persuadé.
C'est engagé pour le temps.
Ouais, il a dit qu'il le ferait.
Enfin, il a dit qu'il le ferait.
Ouais, il a dit qu'il pensait que ça serait, c'était pas bien qu'il soit banni à jamais.
Voilà.
Bon, et disons que je pense qu'il peut tout à fait lui rendre son compte et puis le resupprimer s'il sort des clous.
Par exemple, ou faire comme Facebook. Vous savez, chez Facebook, c'est le compte de Trump n'est pas fermé, il est suspendu.
Suspendu jusqu'en janvier.
En apesanteur.
Ouais. C'est quand même un bon rappel et je trouve que c'est toujours bien de l'évoquer que la modération est non seulement un sujet qui nous concerne tous et toutes, mais aussi est un exercice politique. Et que la modération, c'est politique, ce qui n'est pas un mal hein, en soi, mais ce sont des décisions éthiques et qu'on doit considérer comme telles, qu'elles penchent à gauche ou à droite ou que ce soit.
C'est compliqué de poser les choses en ces termes parce que c'est vrai, mais du coup, il y a des gens qui vont dire « Ah bah du coup, tu vois, on tape que sur la droite.
Beaucoup d'études montrent que c'est faux. Alors ça,
c'est une perception.
Alors, pas tout à fait. C'est en partie aux États-Unis, mais c'est vrai parce que c'est la droite qui dit, enfin la droite, l'extrême droite, qui dit des choses qui sont modérables. Et c'est ça qu'on a vu, c'est que c'est pas parce qu'ils sont de droite, c'est parce que c'est eux qui disent des choses qui sortent des règles et qui sortent.
Oui, mais par ailleurs, les discours de droite ont tendance à être plus amplifiés par les algorithmes. C'est Twitter qui avait sorti une étude à ce sujet, et d'ailleurs c'est rare d'avoir des études à ce sujet qui montraient que les discours de droite ou d'extrême droite ont tendance à être plus amplifiés. Donc après, c'est parce la balance de modération, amplification, etc.
C'est ça. Mais parce qu'ils font appel à ces sentiments de frustration, d'énervement,
d'indignation, etc.
Ouais, complètement.
Mais par ailleurs, on s'indigne beaucoup moins du fait que, bon, déjà, un grand classique, mais les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs tétons sur Internet. Et deux, le fait que plein de comptes féministes se font régulièrement striker par les modérations d'Instagram ou de Twitter, ou etc. Par exemple, sur Twitter, on ne peut pas écrire la phrase quand est-ce que les hommes arrêteront de violer, qui était un slogan des féministes françaises pendant un temps, vous faites se striker automatiquement. On pourrait aussi crier à la censure. En vrai, c'est plus nuancé que ça. Mais ouais. N'empêche que cet exercice de politique, il se fait dans plein de sens différents, hein. Pas que pour les pauvres militants d'extrême droite qui n'ont pas le droit d'être assis sur Twitter, pour caricaturer un peu.
Oui, un peu. Bon, bah écoutez, vous voyez qu'à chaque fois qu'on reparle de Twitter, on repart sur les mêmes questions, mais c'est celles-là qui sont en jeu. Et c'est des questions qui modèlent la communication dans notre société. Et ça, même si vous n'êtes pas sur Twitter, vous en êtes forcément. Alors, on prend Twitter parce que c'est l'exemple le plus parlant, mais ça touche tous les réseaux sociaux. Et surtout, ce qui est sur Twitter se retrouve rapporté sur les médias plus traditionnels et un petit peu partout. Donc, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Bon, écoutez, je vais prendre une toute petite seconde pour remercier les Patriotes. Vous savez qui sont les Patriotes ? Ce sont ceux et celles qui vont sur patreon.com/rdvtech pour soutenir cette émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, le travail qu'on fait, la rigueur qu'on essaye d'avoir, eh bien vous pourriez décider de soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon. Pour ce faire, vous allez à l'adresse indiquée qui est dans les notes de l'émission. Vous regardez s'il y a un niveau de soutien qui vous convient et vous mettez vos informations et vous êtes facturé d'une somme préétablie à la fin du mois. Et de cette manière, vous allez dire « Mais pourquoi est-ce que j'irai donner des sous à Patrick et à son projet ?» Eh bien, parce que ça nous permet d'être indépendants. Je plaisantais un petit peu sur la manière dont les grandes sociétés nous disent ce qu'il faut dire tout à l'heure en parlant de téléphone. Eh bien, vous savez quoi ? Nous, on peut choisir ce qu'on dit, de quoi on parle, de quelle pub on va accepter ou pas, ou même juste pas mettre de pub du tout, si on le souhaite, parce qu'on a le soutien des auditeurs. Et moi, j'ai toujours défendu ce modèle de soutien direct et le soutien hybride qui permet justement d'avoir le choix. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Et dans les podcasts, ça devient de plus important de le protéger aussi. Merci à vous tous et à vous toutes qui avez déjà fait ce choix. Et si vous voulez le faire, c'est patreon.com/rdvtech. Merci à tous et à toutes. Plein de bisous.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.
Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eh ben, on parlait de communication et de réseaux sociaux et de conséquences sur le reste des... Non, ma transition n'est pas top, hein. En fait, je voulais parler de GP Explorer. Est-ce que vous savez ce que c'est que GP Explorer ?
Bah ouais, j'ai Twitter.
Bien sûr.
C'était difficile de ne pas en entendre parler ce week-end. GP Explorer, c'est une opération. Alors, je pense qu'une partie des auditeurs seront comme Cédric, vous dire « Attends, je sais ce que c'est, ça va ?» Mais il y a une partie aussi, une partie de notre mission, c'est de vous informer des choses qui se passent dans le monde de la tech, la manière dont les choses évoluent. Et une partie d'entre vous n'en aura peut-être pas entendu parler, ne saura pas exactement de quoi il s'agit. Donc, notre mission ici, c'est de vous raconter pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Si vous en entendez parler au bureau demain, au moins là vous saurez, vous n'aurez pas l'air bête. C'est donc une opération du plus gros streamer français qui s'appelle Squeezie, du plus gros YouTuber. Je pense que c'est le plus gros YouTuber, en tout cas parmi les plus gros. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il est sorti un petit peu de son domaine traditionnel, qui est surtout le jeu vidéo, et même s'il a fait beaucoup de choses hein, depuis, et il a proposé à d'autres influenceurs, notamment des gens qui streament sur Twitch, ils étaient 22, de faire une course de Formule, alors c'est pas Formule 1, mais Formule 4, je crois, et ils se sont entraînés pendant plusieurs semaines. Et ils ont donc fait leur course en live avec des milliers de personnes sur le circuit et 1 million de spectateurs en simultané sur Twitch. Wow. C'est notable à plus d'un égard. D'une part, parce que 1 million de personnes en même temps, bah, c'est quand même beaucoup qui regardent sur Twitch. Et puis surtout... L'autre aspect que j'ai trouvé intéressant, qu'ont noté différents journalistes et différentes publications, notamment Valentin Sebo sur Numérama, qui disait bah, c'est quand même vachement proche de la télé, quoi. Ça a d'ailleurs été organisé par une société de production qui a l'habitude de ce genre d'événement pour la télé. C'était, avec ce nombre de spectateurs, évidemment, l'interaction avec la chatroom est limitée, voire inexistante, et c'était assez statique comme de la télé. Et en gros... C'est un peu la télé qui est passée sur Twitch et qui fait plus de la diffusion en direct Internet comme traditionnellement on le fait sur Internet, mais qui fait de la télé sur Internet, quoi.
Ah bah, donc, c'est intéressant que tu me dises ça, parce que si tu veux, de l'autre côté de la rue, de la petite rue qui sépare mon bureau du studio 130 de la Plaine-Saint-Denis, il y a AMP. C'est AMP qui a fait la production vidéo de ce truc et qui l'a produit comme un grand prix. C'est-à-dire que ce truc, il aurait pu passer sur TF1 exactement pareil. Ils ont peut-être mis un petit peu moins d'argent parce que c'est très cher de faire de la F1, mais c'était magnifique. Enfin, je veux dire, c'était une vraie retransmission de course automobile. C'était pas un truc, tu vois, c'est pas genre, tiens, je vais mettre ta webcam au bout de la ligne droite, là, ça va le faire. Non, là, carrément pas. Avec tout, avec la télémétrie, avec tout ça. Non, c'était de la télé sur Twitch, en fait.
Complètement, ouais. Ouais. Et du coup.
Moi, j'ai regardé sur ma télé.
Ah oui,
et ben voilà.
J'ai regardé la fin, les 4 derniers tours à peu près, mais je l'ai regardé sur ma télé, et moi j'ai un papa qui est très très fan de F1, et ça m'a vraiment rappelé des souvenirs d'enfance de mon père qui regarde les courses de F1 le dimanche, parce que c'était vraiment la même chose, quoi.
Et du coup, est-ce que Twitch se fourvoie en faisant de la télé?
Je dirais que la différence quand même, c'est que Comment dire? Bon, déjà, il faut mentionner le Ziven, qui était l'autre événement qui avait. Enfin, c'était eux les tenanciers du dernier record, de simultané, où pour le coup, le Ziven, c'est vraiment un événement très Twitch dans le format. Je veux dire, on ne fait pas plus Twitch que ça.
On en a parlé, hein, mais c'est l'événement caritatif où Zerator réunit plusieurs dizaines de streamers en même temps, le même week-end, pour une cause caritative. Et chaque année, ils battaient des records de dons et de viewership sur Twitch.
Après, je comprends que les fans de Twitch en aient marre de la comparaison avec la télé, et j'ai vu que ça avait fait pas mal débat là sur Twitter ce matin suite à la publication de plusieurs articles. Moi, je pense qu'elle est inévitable, parce que quand on s'adresse notamment à des gens qui n'ont pas l'habitude de Twitch, c'est normal de se raccrocher au truc qui y ressemble le plus. Mais après, je pense que le GP Explorer, c'est la raison pour laquelle ça marche, c'est aussi parce que les gens qui vont participer sont sur Twitch et ont construit une relation super forte avec les téléspectateurs, bien plus forte que je sais pas moi, que hein, je suis même pas capable de citer un
un pilote
de F1, je sèche là. Enfin bref, il y a quand même ce côté on dit souvent du
vraiment l'honneur, parce que Verstappen, je sais pas, enfin un truc un peu
voilà. Bref, il y a souvent ce mot de parasocial, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, qui est souvent agité quand on parle de la relation qu'on a avec les influenceurs. Donc les relations parasociales, qui seraient un peu ces relations, en fait on a l'impression que l'influenceur ou l'influenceuse est notre pote. Parce qu'il y a un peu ce truc de faire comme si l'influenceur ou l'influenceuse c'est notre pote. Mmh. Alors ça a des mauvais côtés, mais je pense que ça a aussi des bons côtés, dans le sens où, bah ouais, quand Squeezie pleure d'émotion juste avant de monter dans sa voiture, bah ça touche ouais, vachement ses fans. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'existe pas, ou qui n'existe plus en tout cas, à la télévision. Donc en ce sens-là, c'est pas comme à la télé. Après, la qualité de l'image et le reste, oui, c'est très télévision, mais ce côté relation ultra forte avec les influenceurs, ouais, elle est vraiment différente.
Je crois qu'il y a vraiment une enfin, c'est un petit peu, je vais faire un parallèle peut-être un petit peu bizarre, mais le Twitch classique, qui est l'immense majorité de Twitch, c'est cette relation un petit peu de personnel qu'on a avec l'influenceur. C'est un petit peu la même chose dans les podcasts, à vrai dire. On a déjà avec les auditeurs une relation qui est vraiment particulière. Et donc ça, c'est le quotidien sur Twitch. Et on est dans la chambre de la personne, on est on peut discuter sur le chat, etc. Et ce genre d'événements, comme le GP Explorer, il y en a d'autres, c'est un petit peu les Avengers du MCU. C'est un truc exceptionnel. Et ça marche parce que on a les relations avec les différents influenceurs qu'on va voir. On va avoir ressentir des choses plus fortes pour telle ou telle personne. Mais si on n'a que des séries de GP Explorer, ça marche pas. Parce qu'on n'a pas cette relation qui s'est créée.
C'est complémentaire.
Ouais, complètement. Donc bon, c'était... Mais enfin, Siri, alors qu'est-ce qu'il a compris? Qui c'est qui s'est créé? Ouais, complètement. Et il me répond, bonne question. Ok, très bien. Il n'est pas encore complètement au point.
Juste pour finir, si je peux, je vois dans le chat un message que je trouve intéressant qui dit « Nikos n'a pas commencé à 13 ans en streamant dans sa chambre avec 200 abonnés ». Et je pense que c'est vrai aussi, le côté voir les gens grandir. Parce que de fait, beaucoup de streamers ont commencé assez jeunes, parce que Twitch, voilà, c'est pas non plus un média qui est si vieux que ça. Je pense que c'est très puissant, en fait, le fait de voir une star, enfin une célébrité, une personne grandir sur Internet et de l'accompagner dans plein de d'événements de sa vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, quand un influenceur ou une influenceuse a un enfant, c'est quelque chose de super fort. C'est quelque chose qu'on je pense qu'on ressent moins vis-à-vis de d'autres célébrités.
Tu sais, moi, quand j'ai un niveau largement moindre, mais moi, j'ai commencé, on en parlait, je suis dans ma cuisine, dans laquelle j'ai commencé à Azeroth.fr en 2006. Je pense que les gens qui écoutaient Azeroth.fr à l'époque et qui m'ont suivi, qui ont su quand j'ai rencontré la femme qui allait devenir ma femme, quand on s'est marié, quand on a eu notre premier enfant, deuxième enfant, enfin... Tu vois, ils ont suivi ma vie et cette relation, elle est unique. Et clairement, enfin, Nico, c'est pas pareil, quoi.
T'as plus qu'à faire de la F4.
Et ben voilà.
Peut-être on va commencer avec des live cuisine avec le livre de Trinity. On fera ça
plus tard. Oh, trouillard.
complètement. Non, mais tu vois, moi, j'ai rien à prouver. Tu vois, les grosses voitures qui font vroom, ça m'intéresse pas. Pardon, Cédric.
Mais moi non plus. Moi, je suis pas très course automobile.
Patrick est
je remarque que tu as réussi à parler de GP Explorer sans dire qu'il avait gagné, mais c'est sans importance.
Bon, ça, je vais t'avouer que la course en elle-même m'intéresse pas plus que ça. Mais vas-y, si tu veux ajouter.
Ah non.
Mais maintenant, les gens se demandent. Moi, je sais pas qui a gagné.
Ah, c'est Sylvain Lévy de Villebrequin.
D'accord, très bien.
Qui met du super samplon dans ses Cornflex le matin.
Qui est une chaîne dédiée à la voiture.
Donc quand même, il y a une justice quelque part. On nous dit, Patrick, c'est comme un cousin. C'est vrai qu'on y réfléchissait avec les influenceurs, justement, qui sont... Il y avait quelqu'un, je me souviens plus qui, je suis désolé, un auditeur qui disait c'est pas la famille, c'est pas les collègues que tu vois tout le temps, mais c'est pas non plus un étranger. Et c'est parfois même plus proche que quelqu'un que tu vas voir, un ancien pote que tu vois une fois par an. Il y a une sorte de place un petit peu intermédiaire avec les influenceurs dont on peut être assez proche. Si les gens viennent sur mon Discord, on discute tout le temps, enfin, on peut parler par Twitter et il y a cette proximité. Donc on est vraiment à un niveau intermédiaire socialement entre les gens vraiment proches, hein, bien sûr, et les étrangers ou les vagues connaissances. Il y a cette place différente qu'occupent les influenceurs ou les gens, les animateurs de podcasts, les Twitchers, etc. Et moi, quand vous intervenez régulièrement, enfin là, je vois plein de noms, par exemple, dans la chatroom, mais ça serait pareil sur le Discord ou sur Twitter, des gens que je connais parce que ça fait des années qu'on interagit, qu'on se rencontre. Donc, ce n'est pas à sens unique, c'est ça que je veux dire. Et c'est vrai pour la plupart des gens sur Twitch aussi. Bref. Parlons un tout petit peu du plan de sobriété énergétique. Je sais pas quoi en penser, en particulier, bon, le plan de sobriété énergétique, c'est certainement très bien, mais qu'est-ce que vous pensez de cette question de mise en veille des box? Parce que moi, je suis partagé entre... Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans le plan de sobriété énergétique, il y a une mesure qui vise à, plus qu'inciter, à imposer aux opérateurs de connexion Internet, de services Internet, de mettre en veille les box quand elles sont le moins utilisées pour réduire leur consommation. Et ça a provoqué tout un débat sur est-ce que c'est vraiment un truc nécessaire, est-ce que ça sera utile, et toutes ces questions qui viennent dès qu'on commence à toucher à une mesure écologique qui va toucher ce que vous aimez, vous. et c'est vraiment un truc qu'on constate. Oui, l'écologie, c'est très bien, mais dès qu'on commence à toucher à ce que nous, on aime bien, c'est genre, ah mais non, mais attendez, il y a d'autres choses à faire, il y a plus de des trucs plus importants, ça va rien changer, etc. Ce qui est peut-être pas faux dans le cas des box Internet, c'est vraiment une mesure qui va avoir une influence relativement limitée à échelle individuelle. Bon, évidemment, quand on additionne tout le monde, ça fait quelque chose. Mais du coup, je ne sais pas très bien quoi en penser, parce que moi, mon instinct de fan de tech, c'est genre, ah, c'est bon, ça va, les box, ça consomme rien du tout, et puis les éteindre 2 heures par jour, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Et puis c'est compliqué, ça vous coûte. Est-ce qu'on va couper les connexions Internet des gens, machin? Puis d'un autre côté, l'autre aspect qui est, bah oui, pour la transition écologique, il va falloir que tout le monde s'y mette. Et oui, même les petits trucs qu'on peut faire, bah, c'est pas juste les gros trucs et la fast fashion, l'alimentation et tous ces trucs-là. Et bien sûr, le transport qu'il faudra toucher. Il faut faire de tout et tout le monde. Donc oui, même ce genre de choses, il va falloir y toucher. Et je suis un petit peu perdu, je sais pas quoi penser. Donc je sais pas si l'un d'entre vous peut me dire quoi penser, ça m'arrangerait bien.
On est là pour ça. On est là pour. Bah,
c'est compliqué Lucie. Parce que le alors enfin comme toi, moi je ne m'y connais pas et je pense que c'est important de le dire parce que on sur ce sujet, je trouve que beaucoup de gens qui ne s'y connaissent pas donnent leur avis. Oui. Donc moi je me réfère plutôt à des gens notamment sur Twitter, des spécialistes du numérique et de l'écologie. Moi, de ce que je comprends de ce débat, c'est qu'on se concentre quand même beaucoup sur des choses qui ont un impact au final assez faible. Typiquement le fameux envoyer moins de mails ou stocker moins de mails, on l'entend à chaque fois et à chaque fois il y a des spécialistes qui nous rappellent que ça ne sert à rien, voire c'est parfois pire de lancer une grosse opération de suppression des mails plutôt que juste de gérer sa boîte mail. Moi, ce qui m'embête, et j'ai une article de Numérama devant les yeux, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on insiste quand même moins sur un autre aspect de la gestion écologique du numérique, donc qu'on a un peu touché là tout à l'heure, c'est le renouvellement du matériel.
Ah oui.
Alors oui, effectivement, on utilise des appareils électroniques qui consomment. N'empêche que dans un monde dans lequel on nous incite à changer de smartphone tous les ans, ça me paraît quand même déjà un peu plus concret. Et là, pour le coup, tout le monde s'accorde sur le fait que ça pollue et c'est pas bien pour l'environnement, pour plein de raisons différentes. Et c'est pourtant un peu, je trouve, le parent pauvre de ce genre de grande campagne de sensibilisation sur l'écologie et le numérique.
Alors, voilà. Oui, à un détail près, c'est qu'en fait, là, c'est des choses qu'on entend souvent sur un thème qui est celui du CO2. Là, le but recherché, c'est de l'économie d'énergie immédiate. Donc, c'est pas juste une question d'empreinte, d'autant qu'on a une énergie très largement décarbonée en France, etc. C'est aussi ça qui rend parfois, tu vois, c'est-à-dire que tout à coup, t'as un canard qui reprend une info qui est publiée, je ne sais pas, ailleurs, en disant, regardez, envoyer 4 mails avec 2 pièces attachées, ça fait autant que X ampoules. Non, stop. Là, c'est mieux que le nuage de Tchernobyl. C'est-à-dire que c'est un truc qui ne passe pas nos frontières parce que avec une électricité à, je sais pas, les bons jours 70-80% décarbonés, eh ben, l'impact revient dans l'épaisseur du trait. Du coup, l'histoire de la box. Alors, apparemment, parce que j'ai entendu, comment il s'appelle, Jean-Noël Barrot en parler hier matin. On lui disait, mais le but, c'est d'éteindre les box. Oui, c'est le but. Évidemment, dit comme ça, c'est dit un peu vite. Oui. Ce que son cabinet a expliqué après, parce qu'ils ont fait un éclaircissement, ça a été de dire, non, mais alors, en fait, l'idée, c'est de dire, si la box n'est connectée à rien, s'il n'y a pas de trafic qui passe par votre box, elle pourrait se mettre en veille toute seule, quitte à être réveillée quand il y a du trafic qui reviendra. Sur ce point-là, moi, j'ai pas de souci. Je j'ose pas vous dire combien de devices j'ai connectés au Wi-Fi chez moi, mais bon, en même temps, on est nombreux. Mais donc, la box,
il y a beaucoup de gens qui mentionnent par exemple les problèmes de maisons connectées et de domotiques qui disent si on éteint la box, ça pose un problème. C'est le genre de choses, comme tu le dis, si il n'y a pas de trafic. Mais quelle machine va pas avoir de trafic? Bon, imaginons. Ça devient
Les machines éteintes. Les machines éteintes, mon jeune ami.
Oui, mais franchement, est-ce que dans une maison aujourd'hui, j'en sais rien, peut-être qu'il y en a plein, mais dans une maison aujourd'hui, t'as toujours une télé qui va un petit peu se connecter pour vérifier qu'il y a une update ou pas. T'as un
ordinateur. Ne serait-ce que la nuit. La nuit.
Oui, mais même la nuit, ta télé. Enfin, peut-être.
Ta télé en veille, elle va pas aller faire une mise à jour.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en veille, elle peut aller vérifier si t'as ton nouveau système update qui est dispo ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a une box pour laquelle il n'y a pas de trafic du tout, l'éteindre, si on peut la réveiller quand il y a un trafic et que ça prend 5 secondes pour la réveiller, personne ne va s'en plaindre, quoi. Ça, voilà. Je crois que... Mais bon, effectivement, est-ce que c'est la première priorité? J'en sais rien. Faisons comme Lucie et demandons aux gens qui savent de quoi il s'agit.
Oui, ce qui d'ailleurs, c'est triste, c'est souvent les derniers à qui la question est posée. C'est-à-dire que c'est plus simple, forcément, d'aller te sortir une note d'un auteur qui a fait un jour une étude pour l'ADEME en 2014 et qui te sort un truc où la règle de 3 tient jamais, ou les gens du Shift Project qui, si Netflix dépensait tant d'argent que ça, bref, je ne veux pas rentrer dans ces débats qui sont... Non mais c'est mon Sisyphe, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est Brandolini, quoi, c'est très difficile à démonter.
L'autre aspect que je mentionnais, c'est dès que ça nous concerne, nous, tout à coup, on veut plus, quoi.
Ah oui, genre, tout le monde a envie de changement. Tout le monde a envie de changement et personne n'a envie de changer. C'est malheureux, c'est ça. Mais c'est ainsi.
Et du coup, peut-être qu'il faut être un petit peu... Bon, en même temps, il y a d'autres mesures concernant le numérique dans ce plan de sobriété. Et comme tu le mentionnais, Cédric, c'est différent de la question écologique dans son ensemble et de la question du CO2. L'idée, c'est de réduire la consommation maintenant, parce que même si nous, on est décarboné, et c'est vrai que c'est le cas en France, extrêmement décarboné notre énergie, le marché européen est ouvert. Et donc, même si, tu vois, si tout le monde consomme, il va falloir distribuer l'électricité. Donc, il faut que tout le monde réduise la consommation. Peut-être que ça, c'est un élément. Il y a d'autres éléments dans ce plan aussi et qui font beaucoup moins débat. La question de la climatisation des centres, des data centers, la question de calcul informatique intense qu'on va déplacer dans le temps, etc. Enfin bon, bref. Il y a d'autres mesures. Et celle-là, c'est celle qui, j'ai l'impression, peut-être que j'en suis coupable aussi, mais on perd presque beaucoup de temps à la monter en épingle et à en parler autant, parce qu'au final, je pense, et j'ai relativement confiance dans le gouvernement, ce qui est peut-être dans le gouvernement français, quel que soit son bord politique, il y a beaucoup de techniciens qui connaissent très bien leur travail, et au-delà des déclarations politiques et des débats un petit peu faciles, polémiques, souvent, au final, les décisions qui sont prises sont plutôt les bonnes, quoi, parce qu'il y a plein de vérifications, d'amendements, de projets, etc. Donc, votre silence.
Disons que la confiance n'exclut pas le contrôle.
Oh, on est d'accord. C'est juste que là, c'est devenu une telle discussion. Est-ce que tu fais confiance, Cédric, aux robots qui sont munis de mitrailleuses?
Oui, je trouve ça que c'est la manière la plus efficiente. Enfin, je veux dire, vaut mieux une grosse injustice qu'un petit désordre.
Boston Robotics, qui est l'une des sociétés les plus connues dans le domaine de la robotique, justement, et la conception de robots, vous savez, ces robots qui ressemblent un petit peu à des chiens qu'on voit partout, ou des robots qui font des sauts périlleux, eh bien, ils se sont réunis avec d'autres grandes sociétés de robotique pour signer une sorte de promesse, de pacte, qui disent qu'ils ne vont pas soutenir l'armement de leurs robots, la militarisation de leurs robots. Et c'est ils vont pas le soutenir, ils vont pas le mettre en place eux-mêmes et s'assurer que, dans la mesure du possible, bien sûr, leurs robots ne seront pas utilisés à des fins militaires ou en tout cas qu'ils ne seront pas militarisés. Il y a plusieurs sociétés dans le domaine. Celle qu'on connaît, c'est Boston Dynamics. J'ai dit Robotics. Boston Dynamics. C'est intéressant parce que c'était une vraie crainte qu'on commençait à avoir au fur et à mesure que les robots devenaient de plus en plus efficaces et impressionnants. Et puis, c'était une crainte qui, peut-être, si on va aller chercher l'intérêt des sociétés qui font ça, c'est peut-être pas pour le bien de l'humanité uniquement, mais peut-être aussi pour leur bien à eux, parce que la crainte de voir ces robots militarisés leur donnait une image qui était plutôt négative. Quoi qu'il en soit, est-ce que ça empêchera complètement la militarisation des machines? Je pense pas. Une fois que tu l'as acheté, bah, tu peux peut-être faire ce que tu veux. Mais ça peut le limiter quand même. Enfin, dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne chose, j'imagine. Ou est-ce que, du coup, je vais faire, pas l'avocat du diable, mais le revers de la médaille, est-ce que ça veut dire que plutôt que d'envoyer des robots se battre dans les guerres, on va devoir envoyer, puisqu'on peut pas militariser les robots, on va devoir envoyer des gens se faire tuer dans les guerres plutôt que les robots? Est-ce que c'est l'effet pervers?
Alors moi, j'ai pas d'opinion sur ce sujet qui est très complexe. Par contre, ce que je trouve assez amusant, c'est ce que j'appellerais la malédiction Boston Dynamics, qui est quand même une société qui à la fois a toujours été assez forte en marketing, mais dont le marketing s'est toujours retourné contre elle. Donc Boston Dynamics, qui a appartenu à Alphabet, hein, la société mère de Google, qui l'a revendue en 2016, si je me trompe pas. Et l'une des raisons évoquées dans la presse pour justifier, alors il n'y a pas que ça évidemment, mais pour justifier cette vente, c'est notamment parce qu'en fait Boston Dynamics faisait flipper tout le monde. Parce que Boston Dynamics, on les connaissait notamment pour leurs vidéos. Ils font des ils en font encore, mais pendant un moment, ils faisaient vraiment beaucoup de petites vidéos pour montrer un peu les prouesses de leurs robots, qui étaient effectivement super impressionnantes. Par exemple, à Noël, je me rappelle, ils avaient fait une vidéo où on voyait leur chien robot, là c'est Spot, il me semble, qui faisait les rênes du Père Noël. Alors c'est rigolo 2 secondes, et puis après on imagine Spot effectivement avec une mitraillette ou juste Spot nous marchant dessus, et là c'est beaucoup moins drôle, quoi. Et du coup, c'est un peu le Boston Dynamics est condamné à plus leurs robots seront forts et des prouesses de technologie, plus on en aura peur, quoi. Et en termes de marketing, c'est impossible à marketer, en fait.
Ah oui, d'autant plus qu'ils sont, en plus ils ont cette même physiquement ils ont une forme qui est animale, mais il y a toujours un truc bizarre, genre c'est une sorte de chien sans tête, quoi. Et du coup c'est perturbant, on est dans une sorte
quand il avait une tête, c'était pire, hein. Quand il avait une tête, c'était pire. Hein. C'était vraiment genre.
Oui, mais il y avait la vidéo où ils poussaient une sorte de robot humanoïde. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui.
C'était pour montrer qu'il ne pouvait pas tomber. Et du coup tout le monde avait fait des mèmes.
Arrêtez de pousser ce truc, quoi.
C'est ça, ouais. Tout le monde faisait des mèmes en disant oh là là, c'est le premier conflit qui va provoquer leur haine pour nous.
Le robot se retourne et dit arrêtez de me pousser. Il lui met une claque qui lui traverse le. Bon. Mais bon, cette promesse est quand même, je pense plutôt positive, mais il y a beaucoup de comment dire, self-serving interest là-dedans. C'est pour redorer un petit peu leur image aussi, mais je pense que c'est, je pense que quand même dans l'ensemble, c'est une bonne chose. On dit oui, mais de toute façon, ils vont pouvoir acheter des trucs. Je pense que ça crée d'une part une possibilité pour une autre société qui n'aura pas ses scrupules de se développer, même si technologiquement, c'est vraiment pas facile. On peut pas juste se dire, bon, bah, on va faire des robots, comme on l'a vu avec le robot d'Elon Musk et au bout de 2 mois, sortir un robot équivalent à ceux de Boston Dynamics. Concrètement, si l'armée américaine maintenant vient voir Boston Dynamics en disant bah, on veut 200 robots chiens pour porter nos paquetages quand on est dans la savane, bah, Boston Dynamics va leur dire non, désolé, on ne peut pas vous les vendre. Donc ça limite quand même le truc, quoi. C'est pas juste oh, bah, on peut passer par l'arrière-boutique et machin. Quoi d'autre? J'ai parlé de la question des fausses alertes d'urgence avec les iPhones. Est-ce que vous avez entendu parler de Dense Diffusion? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit?
C'est le générateur de... Ah oui, tout à fait. Oui, c'est pas encore un générateur.
C'est un générateur. On commence à arriver. On va voir si je peux faire écouter aux auditeurs sur la chatroom et dans le. Je ne sais pas si ça va passer dans l'enregistrement. Mais en gros, c'est Stable Diffusion. Vous savez, c'est l'une des sociétés, enfin l'un des modèles qui génère des images en intelligence artificielle. C'est vraiment les 3 mois de l'intelligence artificielle générative en ce moment. Eh bien, ils ont dans leur escarcelle une autre société qui crée de la musique, ou en tout cas qui essaye de créer de la musique. Et on n'y est pas encore. On est à des étapes où ce qu'on entend, comment le décrire ? Je pense que le meilleur moyen de le décrire, c'est de la... Pour ceux qui se souviennent de la radio FM, quand on passe d'une station à l'autre, quand on fait tourner le truc, ça passe d'une station à l'autre et... C'est pas... On a des petits morceaux de musique à un moment, des petits morceaux de son à un autre moment, et c'est pas vraiment de la... une mélodie, quoi. Dans la chatroom, ils vont entendre, mais pas dans le podcast. Et du coup, c'est pas genre « Oh, regardez, écoutez ça, c'est incroyable comme ça marche bien. » On n'est pas du tout à cette étape. Mais on est à l'étape, en fait, d'avant. Ou peut-être l'étape d'avant. C'est-à-dire qu'on peut faire des instruments, on peut créer un morceau dans le style d'un autre artiste, ce genre de choses, ou créer des instruments spécifiques qui fonctionnent. Et donc, tout ça pour dire, on n'y est pas, mais on est 2 ou 3 étapes avant de la création de musique vraiment indépendante par une intelligence artificielle. Donc, c'est encore un autre domaine qui est en train de couvrir ce domaine de recherche, quoi.
Mais ça avait, il y avait déjà des choses qui avaient été faites comme ça, je me souviens. C'était un labo de recherche de Sony qui avait fait ça, où ils avaient fait manger à, je sais pas si c'était GPT-3 ou quelqu'un d'autre, tout le catalogue des Beatles, et pour leur dire, fais-moi une chanson des Beatles, ce qu'ils avaient fait, et c'était, je sais plus comment ça s'appelait, Daddy's Car, ou un truc comme ça. Ouais. C'était pas convaincant comme chanson. En revanche, t'avais l'impression d'écouter les Beatles sur les arrangements, sur tout ça, sur les mélodies. C'était assez impressionnant, parce que si je te dis, tiens, fais-moi une chanson des Beatles, toi tu vas pas y arriver.
tu sous-estimes peut-être mes capacités musicales.
C'est peut-être, vrai, auquel cas je m'en excuse. Mais je demande à entendre quand même.
Attends, je vais aller commander un truc à mon IA. Et l'autre truc, c'est Google. On parlait la semaine dernière de Meta, comment il s'appelle, texte ou vidéo. Bah, Google a un petit peu la même chose. Donc, la semaine dernière, on vous parlait en plus d'images, mais de vidéos générées par intelligence artificielle par requête. Bah, Google devait être un petit peu jaloux et ils ont montré leur modèle qui, à peu de choses près, est un petit peu équivalent à celui, peut-être un petit peu plus convaincant encore sur des images plus, des séquences plus courtes, est équivalent à celui de Meta dont on parlait la semaine dernière. On parlait de maisons connectées tout à l'heure. Un miracle est arrivé, messieurs, dames. Est-ce que vous savez ce qu'est Matter ?
Non.
Non.
Vous ne savez pas. Matter, c'est l'union de tous les acteurs de maisons connectées. On y compte Apple, Google, enfin tous les intervenants. Eh bien, Matter, ils établissent donc un standard pour que tous ces appareils fonctionnent ensemble. Il y a Philips Hue, enfin vraiment tous. Eh bien, ils sont arrivés à la version finale de ce standard en 1.0. Et ils commencent à délivrer les certifications maintenant. Donc, ça veut dire que les appareils compatibles Matter, et ça sera le cas de donc l'essentiel et même tous les appareils de maison connectée à partir de maintenant, pourront tous travailler ensemble. Donc, la maison connectée ne va plus être un casse-tête sans nom.
Ah
et
oui,
je dis, c'est un miracle.
C'est les Balkans, la maison connectée. Hein.
Un petit peu, ouais. Je dis, c'est un miracle parce que j'ai pas mentionné Amazon, mais Amazon fait partie du truc aussi. Donc, c'est un miracle parce que c'est le genre de standard qui se faisait plus trop. Et ils ont essayé chacun d'imposer leur standard pendant les années. Ça a pas marché. Donc, ils se sont dit, OK, on va arrêter les conneries, on va bosser ensemble. Et ils y sont arrivé. Franchement, c'est vraiment notable. Matter, M-A-T-E-R, maintenant, ça existe et ça fonctionne.
Et il n'était pas trop tôt. Alors, en fait, il y avait une espèce d'unification parce que tout ce qui sortait en termes de maisons connectées était désormais fait pour se connecter soit à l'assistant Google, soit à Alexa, etc. Et donc, l'unification, elle se faisait un peu par là, mais avec, c'est-à-dire que souvent il fallait que tu installes l'application chinoise qui allait avec ton ampoule, puis que tu connectes le truc à Google, et après ça marchait. Et alors si par malheur l'application chinoise était plus mise à jour, bah dans 5 ans, et que ton iPhone te dise j'en veux pas de ton appli, et ben ça marchait plus, tu pouvais plus l'appairer avec autre chose. Non, c'est vrai que c'était un peu compliqué. C'est chouette qu'il y ait des standards, mais ça n'aura mis que quoi. Moi je me souviens, on me parlait de pas de maison connectée à l'époque, mais de domotique dans Science et Avenir quand j'avais 9 ans, et ça fait donc beaucoup d'années.
Alors, disons que la version moderne de ça, c'est au moins depuis quoi, 2010-2012. Je pense que ça a vraiment décollé avec Philips Hue, qui a vraiment réussi son coup. Et puis Google Home et Apple Home. Mais ça doit être 2010-2012 minimum. Ils ont essayé pendant des années de faire les trucs de leur côté. Et enfin, là, ça fonctionne. Un petit mot juste pour mentionner un article sur auquel je n'ai pas accès ici, sur The Internet Archive, dont je parle de temps en temps parce que je suis un abonné, enfin un soutien de The Internet Archive. Je leur envoie quelques euros tous les mois. C'est une organisation à but non lucratif qui archive l'ensemble de l'Internet, et ils vont bientôt arriver à une quantité d'archives de 100 pétaoctets plutôt. C'est évidemment monstrueux comme volume de données. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient leurs robots capturer chaque page web du net, mais vraiment chaque page du net, et qui en capture en plus les modifications. Donc, si vous voulez avoir un historique de tel ou tel site, vous pouvez aller le consulter sur The Internet Archive. C'est un des éléments qui s'appelle The Wayback Machine. Et vous pouvez remonter dans le temps pour regarder comment était le site à une époque. C'est une ressource historique et journalistique absolument énorme. Et ce qu'ils disent maintenant, c'est qu'ils craignent ils disent qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de facilité à capturer certains sites, comme notamment les réseaux sociaux qui sont très personnalisés et très individuels. Et du coup, c'est très, très difficile de capturer toute une partie d'Internet, parce que tous ces réseaux, évidemment, représentent une partie grandissante et une énorme partie du net. Donc, ils ont beaucoup de mal à capturer ces éléments-là. Donc, bon, ça ne veut pas dire que... Enfin, il n'y a pas vraiment de solution, mais je le mentionne surtout pour signaler le travail de l'Internet Archive, qui est vraiment important sur... historiquement pour notre société, je trouve.
Et puis, qui ne stocke pas d'ailleurs que des pages web. Hein. Il y a aussi pas mal de... Il y a de la musique libre de droit, il y a des vieilles vidéos extraordinaires. Moi, il y a des vieilles vidéos extraordinaires. Justement, un jour, il fallait que je fasse un sujet sur la domotique. Tiens. et là, j'ai retrouvé, tu vois, genre une vidéo de 1952, je ne sais pas, commandée par General Motors à l'occasion d'une expo sur la maison du futur et tout. Il y a des trucs formidables. Bon, il faut vraiment aller creuser, il faut aller chercher. C'est pas... Le digest n'est pas fait pour toi, mais c'est des gens qui font œuvre utile.
Tout à fait. Et puis un dernier mot sur sur Horizon Worlds, l'univers 3D, aïe, alors aïe, tout le monde dit le métavers de Meta. Moi, j'ai du mal à dire le métavers, parce que le métavers, c'est un truc qui n'existe pas encore, qui n'existera pas pendant des années, comme je le dis souvent. C'est beaucoup de technologies et de standards qui doivent se mettre en place pour que ça existe. Mais l'univers virtuel Horizon World de Meta, qui est quand même un porte-étendard du projet dans ce domaine de Meta, est malmené. C'est un univers en 3D dans lequel on peut créer et interagir avec d'autres personnes, se retrouver, explorer des mondes différents. Et il y a un mémo interne qui a été publié, qui a fait un petit peu parler de lui, directeur du métavers, qui dit, c'est Vishal Shah, qui dit écoutez, Horizon World, ça va pas du tout. En gros, je schématise, mais il est tellement mauvais que même nous, on l'utilise pas. En gros, c'est
ah, ça pique.
Et donc, il faut qu'on corrige ces problèmes. Et je pense que beaucoup de gens se sont concentrés sur c'est tellement mauvais que même nous, on ne l'utilise pas. Et donc, il faut qu'on se force à y être pendant au moins une heure par jour, tous les jours. Je pourrais dire que, a priori, une heure par jour, ils y sont déjà au moins, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ton boulot et c'est ta passion. Mais moi, ce que je choisis de retenir, c'est, en gros, ce qu'il dit, c'est il faut qu'on corrige les bugs, il faut qu'on le rende plus utilisable, il liste les problèmes à corriger, quoi. Il dit pas juste « Ah, oh, c'est de la merde !» Il dit « Non, mais il faut qu'on corrige ça pour que ça soit agréable à utiliser. On n'y est pas encore. Donc, il faut qu'on continue à travailler. » Et donc, moi, c'est ça que je choisis de retenir. Je suis sûr que Cédric ou Lucie se gosse et rit bien.
Je me gosse pas, moi. Cédric, si je permets que je commence.
Non, bien sûr.
Moi, déjà, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que le métavers, il existe déjà. C'est juste que c'est pas le métavers que veut nous proposer Meta. Si on considère que le métavers, et la définition est assez floue, hein, mais si on considère que le métavers, c'est une forme de floutage de la limite entre la vraie vie, enfin la vie physique et la vie numérique, on a déjà des exemples de métavers. Typiquement, un exemple qui est souvent cité, c'est Pokémon Go. Pokémon Go, c'est une forme de métavers. Dire tout ce que font les gamines sur TikTok avec les filtres en ligne, c'est aussi une forme de métavers, etc., etc., etc. Par ailleurs, quand on parle de métavers dans le sens monde 3D immersif, moi, il y a un premier problème que je pense dont on parle pas assez et qui me concerne directement. C'est pour ça que ça me tient à cœur. La VR, ça me donne envie de vomir, vraiment de manière très concrète.
Mais tu n'es pas seule.
Je suis atteinte de, c'est pas une maladie, hein, juste le fait de la cinétose, qui est communément connu comme étant le mal des transports. Moi, je suis malade en voiture, je suis malade en train, je suis malade, voilà, c'est comme ça. Et là, récemment, en juin, j'ai fait un article pour Le Monde sur les problèmes de modération du métavers. Et du coup, j'ai passé une journée un peu, enfin une après-midi sur différents métavers. J'ai fait VRChat, j'ai fait Horizon World, j'ai fait plusieurs jeux aussi en VR, comme EcoVR.
Ce que tu vas nous dire maintenant.
Non, mais j'ai vraiment. Alors, Horizon World n'était pas le pire. Le pire, c'est VRChat. VRChat, j'ai pas pu y rester plus de 10 minutes. Ça m'a vraiment mis très très mal. Mais Horizon World, c'est pas un truc dans lequel je me vois rester plus de 10 minutes parce que vraiment, même si.
Pour des questions de cinétose ou parce que tu dis pour la question de modération.
Non, pour des raisons. En fait, j'ai même pas l'occasion de me brancher sur les contenus, juste ça me rend malade. Ouais. Et j'ai déjà écrit un article sur la cinétose dans la VR il y a des années pour le Figaro où je soulignais le fait que c'est un problème qui concerne notamment les femmes parce que statistiquement les femmes sont plus atteintes de cinétose que les hommes, plein de raisons scientifiques à ça. Et je vois bien que les casques VR ont fait des progrès, je vois bien que il y a des solutions qui ont été trouvées pour atténuer un peu le problème, mais on n'y est vraiment pas encore.
Et c'est pour ça que je dis que ça va prendre des années, tu vois. C'est qu'on n'y est pas encore.
Ouais, enfin, je veux dire, mon article sur la cinétose dans la VR, je l'ai écrit il y a 5 ans, hein, et vraiment, alors oui, je ne vomis littéralement pas, ce qui a été ma première expérience quand j'ai fait. Non, mais tu rigoles, mais le premier Oculus, je l'ai mis, j'ai vomi. J'ai vraiment vomi, quoi. Donc, je suis désolée, hein, c'est un peu TMI, mais c'est de fait ce qui s'est passé. Ouais. Donc, du coup, moi, ça me fascine un petit peu tous ces gens qui décrivent un futur dans lequel on est constamment dans des casques VR, parce que moi, il faudrait vraiment me payer cher. Et, vraiment très cher pour passer plus d'une demi-heure en VR. Quoi.
C'est juste, mais c'est surtout, c'est une info intéressante parce que tu représentes probablement entre 20 à 40% de la population. Donc, tu vois, c'est pas... Alors, à des degrés divers, mais c'est vrai que, je suis d'accord, les premiers casques de VR, avec surtout la rémanence, enfin, où tout à coup, l'image t'arrivait en écho quand tu bougeais. Enfin,
voilà. Et c'est pour ça que l'une des autres, on s'écarte un petit peu de la question de Horizon Worlds, mais...
Non, on s'en écarte pas, c'est central.
Non, mais moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la VR, c'est gadget, mais la vraie prochaine évolution de l'interface, c'est la réalité augmentée plutôt que la réalité virtuelle. Et là, on a beaucoup moins de problèmes de ce type-là parce qu'on est ancré dans la réalité avec des éléments d'interface surimposés qui peuvent être importants, hein, mais...
Ouais, mais coup, puis alors, comme le signale Score Gneugneux sur le chat, il ou elle dit que le métavers, c'est pas forcément que de la VR et c'est aussi le concert d'Aya Nakamura sur Fortnite. Moi, je suis d'accord avec ça et je pense qu'il y a des formats de métavers qui ne sont pas des mondes immersifs. Et à titre personnel, je crois davantage dans ces choses-là, notamment parce que bah, moi, je peux déjà y avoir accès en fait, alors que les trucs en VR, c'est pas possible et je suis clairement pas la seule à être dans ce cas.
Ouais. Certainement pas la seule, c'est sûr, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à certains éléments de technologie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément condamnés à ne pas exister. Il y a une partie de la population qui ne peut pas utiliser certaines choses. Ça ne veut pas dire, juste, je le mentionne parce que c'est une réalité aussi. Mais pour ce qui est du métavers, bon, je ne vais pas repartir dans ma définition du métavers et qui était celle que donnait Zuckerberg dans sa grande conférence, mais tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des éléments, des blocs de construction qui feraient les métavers plus tard. Donc après, chacun a sa définition, mais celle qu'il donnait et celle sur laquelle tout le monde se base pour se moquer de lui, les gens se moquent de lui en prenant une définition qui n'est pas celle qu'il donnait à la base. Donc, je trouve ça... J'ai pas vraiment envie de défendre, comment il s'appelle maintenant, Alpha Zuck, mais sur ce point, je peux pas lui donner tort. Lui, ce dont il parlait, c'était un truc beaucoup plus ambitieux pour dans beaucoup plus longtemps, avec du matériel, des standards et des systèmes qui n'existent pas encore.
Après, donc, c'est Meta qui fait des pubs partout dans les gares actuellement. Je veux dire, il faut aussi être cohérent avec son marketing. Hein. Si c'est pas prêt, pourquoi est-ce qu'on nous le vend maintenant ?
Et puis leur Horizon World, c'est pour maintenant, et leur chef du Horizon World, il dit c'est pas prêt, ça marche pas. Et même nous, on l'utilise pas. Donc oui, je comprends aussi cette approche. Tu veux nous donner le mot de la fin, Cédric, ou
sur quoi ? Sur Horizon Worlds, c'est pas encore désespéré. Pour eux. J'attends juste de voir quand on nous dit Meta investit 10 milliards par an. Si tu veux, parce que quand Intel investit 10 milliards par an, on voit ce qui sort. Là, 10 milliards par an, pour l'instant, j'ai pas l'impression que Meta en a pour son argent. Il y a un problème assez central, mais qui est aussi, peut-être, j'espère avoir tort, hein, lié à un problème de culture d'une entreprise qui a pas été articulée pour innover, quoi.
Peut-être. Écoutez, moi, je crois que ça pourra peut-être donner quelque chose, parce que c'est tellement ambitieux que, tu vois, ils vont présenter leur nouveau casque de réalité virtuelle, par exemple, là.
Oui.
Dans quelques, pas longtemps, une semaine, deux semaines, et peut-être qu'on sera impressionné, qu'on verra où sera passée une partie de ces milliards. Ce qui est sûr, c'est que dans Horizon World, on a du mal à le voir, effectivement, je suis d'accord. Eh bien, écoutez, c'était un moment fort sympathique passé en votre compagnie. Merci beaucoup de m'avoir accompagné tous les deux. On va donc conclure cet épisode. Mais avant ça, bien sûr, je vais vous demander où on peut vous retrouver. Lucie, dis-moi, où officies-tu sur Internet ?
Alors, le plus simple, c'est de me suivre sur Twitter, @LucieRonfo, mon prénom et mon nom. Et donc, sinon, j'ai une newsletter qui s'appelle « Règle 30 ». Vous pouvez la retrouver sur Numérama. Si vous tapez dans votre moteur de recherche préféré Règle 30 Numérama, vous tomberez dessus a priori.
Brave, par exemple, c'est un bon moteur de recherche. Brave.
Voilà.
Cédric, où te retrouve-t-on ?
@Cédric sur Twitter, je suis en train de regarder Règle 30 parce qu'en fait, à chaque fois que je vois le profil de Lucie, à chaque fois, je me pose la même question en disant qu'est-ce que ça veut dire Règle 30 ?
Et donc, est-ce que tu veux que j'explique ?
Je veux bien, ça va être peut-être l'occasion de tirer ça au clair.
Alors, donc, Règle 30, c'est vrai que j'aurais dû expliquer, c'est donc une newsletter qui s'intéresse à l'actualité des nouvelles technologies avec un point de vue inclusif et féministe. Et si elle s'appelle Règle 30, c'est en référence à un vieux mème sur Internet. Vous savez, les règles d'Internet, par exemple, celle la plus connue, c'est la règle 34. Si ça existe, il y en a forcément du porno. Et donc, il y a plein de règles comme ça. Et donc, la règle 30, c'est... c'est « il n'y a pas de femme sur Internet ». Donc sous-entendu, si quelqu'un prétend être une femme sur Internet, il ment. Donc voilà, donc j'ai utilisé cette règle comme illustration de mon propos.
Je suis en train de lire ta la lettre à ma première dick pic. Je trouve ça.
Voilà.
on n'a pas résolu. Je sais que c'est. Alors, c'est une tangente totale. On n'a pas résolu les dick pics par AirPlay.
Les dick pics.
Ah ouais, c'est un vrai sujet.
Par
ça.
AirDrop.
C'est un vrai sujet.
Parce que je vous le raconte.
Je vous le raconte en deux mots. Vas-y. Dans un avion partant pour une destination lointaine. Ouais, je sais, c'est mal. Ok, c'était booké de longue date. Mon épouse assise à côté de moi, tododong sur son iPhone. Elle regarde, elle fait. Non, ça va pas être possible. Et donc c'était quelqu'un dans l'avion parce qu'il y avait pas de, elle avait quasiment pas. Et c'est, en plus c'était de l'airdrop. Et c'est là que tu t'aperçois que bah et apparemment c'est. Du coup j'ai demandé à des femmes et des jeunes femmes autour de moi qui m'ont dit bah ouais, enfin tout le temps quoi, tout le temps dans le métro, tout le temps. Faut fermer ton airdrop, sauf si t'as envie de faire d'en rire, mais.
Excuse-moi Cédric, je vais juste expliquer pour les gens qui ne sont pas utilisateurs de cette technologie ou d'appareil Apple. AirDrop, c'est une technologie qui permet d'envoyer des fichiers sans fil directement à une personne, c'est-à-dire qu'on dit envoyer ce fichier par AirDrop et on a une liste des appareils auxquels on peut les envoyer. Et généralement, AirDrop, c'est ouvert pour faciliter les échanges de photos, machin, entre amis. Et donc, on peut directement envoyer le truc et sur l'appareil qu'on a visé, va s'afficher une notification avec une miniature de l'image et qui va dire du coup est-ce que vous voulez accepter ce fichier, mais il vous affiche déjà une miniature et c'est pas forcément une personne que vous avez acceptée dans votre liste de contact. On peut limiter la réception d'AirDrop au contact, mais par défaut c'est ouvert à tout le monde pour faciliter les choses, les échanges entre eux.
Et surtout, tu aperçois que ce truc n'arrive pas signé, je sais pas, au moins d'une adresse Mac, d'un truc, d'un identifiant Apple, que sais-je encore, tu vois.
Tu peux pas savoir qui c'est, quoi. Tu sais que c'est quelqu'un qui est pas loin, mais...
Tu sais que c'est quelqu'un qui est à moins de 10 mètres de toi, à la louche, mais pour en savoir plus, c'est compliqué.
Ouais.
Donc, bon, enfin bref, un problème à la fois.
Ouais, mais du coup, la solution pour ça, qui est un petit peu pénible, mais il faut limiter l'acceptation de AirDrop, enfin l'accès au AirDrop, au contact.
Et du coup, la première dick pic de Lucie ne sera pas la dernière, mais il faut aller lire règle 30.
Voilà exactement.
Moi, j'ai pas d'iPhone.
ça c'est sympa. Oh, il doit y avoir un équivalent sur Android.
Allez jouer.
Bon, donc le compte de Lucie et le compte de Cédric seront sur les notes de l'émission, le compte Twitter, et à partir de là, vous retrouverez absolument toute leur production internetienne. Pour ma part, note Patrick à peu près partout, hein, ça vous connaissez, et puis surtout patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission si vous appréciez ce qu'on fait, si vous passez un bon moment, si vous apprenez une ou deux choses, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes. Eh bien écoutez... Épisode qui a fonctionné, on a même fait une live, la chatroom est toujours là, merveilleux, magnifique, on se donne rendez-vous du coup jeudi j'espère pour le prochain épisode, enfin l'épisode du rendez-vous jeu, et puis la semaine prochaine pour le rendez-vous tech, et il y aura du coup le petit dans le fond. J'espère que ça se passera bien, on verra, je vous fais de grosses bises et on se donne rendez-vous à ce moment. Ciao à tous.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.